Salut, bienvenue chez moi, c'est Manu. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix. Nous allons parler de la voix comme outil hypnotique principal, fondamental. Pas exclusif, mais important, important quand même. Le placement de la voix, la conscience de son amplitude, de ses possibilités et tout ce qu'on peut faire évoluer à l'intérieur de nous en portant une attention, en ayant une pratique vocale. Si modeste soit-elle, elle aboutit à une connaissance de soi qui est intéressante. Aujourd'hui, nous allons étudier, voilà, tout de suite les grands mots. Alors, j'avais dit que je ferais un épisode tous les lundis sur la voix. On est vendredi, donc tu vois que c'est un lundi symbolique, quoi. D'accord? Et pour montrer que j'applique aussi mes propres conseils, j'ai commencé l'enregistrement d'un nouveau livre audio. Tu sais, j'en ai déjà enregistré quelques-uns que tu peux trouver sur le podcast, dans les playlists sur SoundCloud, ou je ne sais pas comment ça marche ton application de podcast, mais les audios sont hébergés et classés par playlist sur SoundCloud. D'accord? Radio Hypnose, Manu Winter, Hypnose Direct, enfin je ne sais pas par quel nom on me retrouve maintenant. Aujourd'hui, ça s'appelle Radio Hypnose, et sûrement pour quelques années, je pense. Et alors, j'avais enregistré, bah, c'est des vieux bouquins d'hypnose, parce que c'est du domaine public, tu vois, sinon il y a des problèmes de propriété intellectuelle, et je veux pas, voilà, je veux pas être dans l'illégalité, devenir un dangereux hors-la-loi en lisant des livres qui sont soumis aux droits d'auteur, voilà. Donc, dans les bouquins que j'ai enregistrés, il y a Bernheim, il y a Rochat d'Aiglun, je sais plus qui d'autre. Voilà, donc quelques livres audio. Et là, en ce moment, j'enregistre l'abbé Faria de La cause du sommeil lucide. Donc, on parle pas encore d'hypnose, on parle de sommeil lucide. Voilà, enfin, en tout cas, dans son langage. Et j'apprends dans ce vieux livre, très intéressant, qu'une personne est plus ou moins susceptible d'entrer en sommeil lucide en fonction si son sang est plus ou moins épais. Tu vois, c'est assez, c'est assez étrange. Voilà, j'avais jamais entendu parler de ça. Si t'as le sang plus liquide, tu entres facilement en hypnose, et si t'as le sang dense, épais, tu seras plus résistant. Voilà. Donc, je sais pas comment on a pu oublier toutes ces vérités des anciens, toute cette sagesse ancestrale. Je sais pas comment on a pu se détourner de ça. Vraiment, les bras m'en tombent, quoi. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix, nous allons parler de l'aération, de l'oxygénation, nous allons parler de la respiration, du relâchement et comment on peut gagner en puissance vocale par l'absence de force. Pour faire de la voix, en tout cas pour faire vibrer sa voix, pour faire du bruit avec sa voix, nous avons besoin d'air. Il nous faut de l'air, il nous faut des grandes quantités d'air. Et il nous faut un corps. Normalement, tu es équipé, tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour parler, pour exprimer des choses avec ta voix. D'accord? En tant qu'adulte, je te connais pas, je ne sais pas quel âge tu as, je pars du principe que tu peux parler, d'accord? Que tu n'es pas muet, sinon cet épisode n'aura pour toi aucun intérêt, évidemment. Et donc, tu es équipé en termes d'habitude, en termes de code, de connaissances, d'accord? Tu te sers de ta voix depuis, voilà, en fait, depuis ta naissance, quoi. Ok? Et pour faire de l'hypnose, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur sa voix, d'accord? Pour l'hypnose, mais c'est vrai aussi pour d'autres situations de la vie de tous les jours, qui peuvent être des situations de conflit, qui peuvent être des situations de confusion, qui peuvent être des situations de stress, de trac, d'accord? Ça peut être le fait de parler à quelqu'un dont on est amoureuse, amoureux, et perdre ses moyens, bafouiller, etc. Et quand tu as une voix qui est travaillée, d'accord? On pourrait dire éduquée, conditionnée d'une certaine façon, tu as une voix qui est entraînée, qui fait que tu as un outil qui est stable, que tu connais, dont tu connais les possibilités et dont tu connais les limites. Sur cet outil, tu peux te reposer, tu peux t'appuyer, Tu peux faire en sorte que même en cas d'émotions intenses, d'émotions violentes, ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être le trac, ça peut être l'émotion, voilà, le fait d'être ému, tu vois, l'émotivité, ne te fait pas perdre ta voix. C'est-à-dire que tu peux vivre ces émotions, les encaisser, les supporter, etc., sans que ta voix ne soit perturbé, sans perdre ton débit, sans perdre ton articulation, sans perdre ton rythme, sans perdre ta stabilité, tes appuis. Ça sert essentiellement à ça, ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire que tu rentres en séance, imaginons, enfin, tu es déjà là, mais ton client, ta cliente arrive, la personne te dit des choses, te raconte son histoire, son parcours, sa situation, son problème, ses problèmes. Ses angoisses, ses peurs, ses colères, ses frustrations, toutes ces choses-là qui peuvent résonner en toi ou peut y avoir une absence de résonance aussi, hein, ça peut arriver. Ça peut être un jour où, je sais pas, tu es énervé par quelque chose, tu peux être préoccupé par d'autres choses. On a tous des occupations, on a tous des choses à gérer, des choses à faire, on a tous des choses qui nous prennent la tête. Ça peut être aussi la personne qui te dit des choses que toi, tu n'es pas prêt à entendre, d'accord? Une personne te balance tout à trac un trauma, un truc pas possible, une histoire terrible qui ressemble à ton histoire à toi et tu peux perdre les pédales comme ça, tu vois? La personne peut t'annoncer quelque chose d'extrêmement choquant, tu vois? J'ai un exemple d'un copain hypno qui m'a raconté, bon, il a eu un client. Extrêmement raciste, en fait, enfin, ouais, raciste, quoi, enfin, je sais pas, extrêmement, je sais pas, mais en tout cas, raciste, avec une hostilité particulièrement marquée envers l'ethnie dont l'épouse de mon copain est originaire. Tu vois le truc, tu vois, je sais pas, imagine ta femme, j'en sais rien, elle est chinoise, et ton client, il dit, bon, voilà, vous, je vous trouve très sympa, comme hypno, vous êtes super, par contre, les Chinois, qu'est-ce que j'aime pas les Chinois, quoi, voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vois? Est-ce que tu vas quand même essayer d'aider cette personne? En tout cas, tu vas pas la foutre dehors, tu vois? C'est pas possible. Donc tu dois encaisser le truc, mais sans que ce que toi tu vas ressentir par rapport à ce truc que tu peux trouver scandaleux, injuste, indigne, tout ce que tu veux, tu vois? Mais que ça ne transparaisse pas. Ou en tout cas en limitant considérablement les intrusions de tes propres émotions dans ta voix, dans ton discours hypnotique et donc dans le contenu de ce que tu vas dire. C'est-à-dire que tu as un espèce d'effet comme ça qui fait que quand ta voix est stable, ça stabilise ta pensée en fait. Je sais pas le dire plus précisément que ça. Voilà, il faut en faire l'expérience. Mais d'une manière générale, on sait tous ou toutes que plus on est stressé et plus on perd la voix, plus on perd ses moyens et plus on raconte n'importe quoi. La maîtrise de la voix te rappelle à l'ordre, te rappelle au calme et te ramène à une forme d'équilibre, une forme de centrage qui t'empêche de trop déborder de ton cadre thérapeutique. C'est pour ça qu'on a besoin d'air en fait. On a besoin d'air pas seulement pour parler, on a besoin d'air pour se remplir d'oxygène, pour détendre les muscles, d'accord? Pour détendre ton cerveau, pour détendre tes organes, pour détendre ton esprit et pour détendre ta communication, tes relations. Comme j'ai déjà évoqué dans le premier épisode que j'ai enregistré sur le thème de la voix, un problème qu'on a tous, dont on n'est pas conscient ou conscient, d'accord? C'est d'arriver dans notre pratique en étant rempli de soi-même, d'accord? On a nos affects, on a nos certitudes, on a nos doutes aussi, on a nos projections, on a nos expériences, on a notre savoir, entre guillemets, tu vois. Et quand on est envahi par soi-même, en fait, on n'a plus de place pour écouter l'autre, et donc on dit et on fait des conneries. Parce qu'on ne sait pas ce que veut la personne, on ne sait pas ce qu'elle attend, on ne sait pas ce qu'elle vit, on ne sait rien. Enfin, déjà, qu'en accordant beaucoup d'importance à l'écoute, à la collecte d'informations, déjà en faisant ça sérieusement, on ne sait pas grand-chose, et d'autant plus quand on n'a pas la place pour écouter. Donc une bonne manière d'aborder la science, c'est de commencer par se décharger, d'accord? Se décharger de soi-même. le travail vocal peut y aider. C'est-à-dire, en quelque sorte, tu chauffes ta voix, tu fais de la voix, tu balances un peu des affects comme ça à travers la pratique vocale. C'est plus facile d'être silencieux et d'écouter en séance. Et ton silence n'a pas la même résonance. Il y a le silence forcé. J'écoute poliment ce que dit la personne, c'est-à-dire que j'écoute pas en fait. La personne dit un truc, je hoche la tête, ah ouais, d'accord, oh, wow, incroyable, je fais un peu de méta comme ça, c'est-à-dire position méta, je donne mon avis sur ce qui se dit, sur ce qui se passe, voilà, ah, c'est intéressant, wow, c'est super ce que vous dites, enfin voilà. Et on va remplir comme ça la séance avec, avec soi-même. Et ça, c'est nul en fait, quoi. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Enfin, c'est pas nul, mais c'est pas terrible, quoi. C'est pas génial. Par rapport à mes standards. Voilà. Donc, on va commencer par se suroxygéner. D'accord? Voir déjà ce que ça fait de prendre beaucoup d'oxygène, plus d'oxygène que ce qu'on a l'habitude de consommer au repos en temps normal. D'accord? Déjà pour prendre conscience des tensions physiques. D'accord? Des gènes respiratoires, des blocages, des points de contraction musculaire, de crispation plutôt, d'accord? Là où le corps est censé être au repos, en fait, il est crispé. On ne s'en rend pas compte parce que le stress s'installe petit à petit, jour après jour, il devient normal, il devient familier, on ne s'en préoccupe plus, on ne s'en soucie plus, on l'oublie et pourtant c'est toujours là, d'accord? Si tu te fais masser, par exemple, tu te payes un massage californien, un truc comme ça, ou suédois si t'aimes les trucs avec des étirements, un peu de percussion, un peu plus tonique, californien, plus doux, plus enveloppant, ça te rappelle que t'as un corps. C'est-à-dire généralement les 5-10 premières minutes du massage, quand tu l'as pas fait depuis très longtemps ou quand tu l'as jamais fait, c'est assez inconfortable parce que tu commences à percevoir à quel point tes muscles sont surmenés et à quel point ça a un impact en fait sur ta respiration, sur tes émotions, sur ta pensée, sur ta non-pensée, sur ton inconscient. Voilà. C'est pour ça que la plupart des méthodes un peu d'introspection, type hypnose, sophrologie, certains types de méditation sont axés sur la respiration où la porte d'entrée principale, c'est souvent la respiration. D'accord? Et pour en mesurer les bénéfices, nous allons procéder maintenant à cet exercice après une introduction beaucoup trop longue à mon goût, mais je sais pas. On va commencer par l'ancrage, position du corps. Ok? Les conditions optimales pour faire résonner la voix. Debout. Pieds parallèles, à peu près, d'accord. Suivant tes possibilités, il vaut mieux respecter son confort, son amplitude articulaire, ses possibilités, que de chercher à entrer dans une position qui sera un peu académique, d'accord. Donc, debout, les pieds plus ou moins parallèles, écartés d'une largeur de hanche, d'une largeur d'épaule, à peu près. Bon, si t'es comme moi et que t'as les épaules très très larges et que t'es un peu taillé en V, tu vois, je vais plutôt partir sur la largeur des hanches, d'accord? Et donc, on va légèrement fléchir les genoux, mais très légèrement, de façon à ce que les mollets restent à la verticale, d'accord? C'est-à-dire que quand on plie les genoux, le genou ne doit pas aller se mettre à l'aplomb du bout des pieds, d'accord? Le genou, il est dans l'axe de la cheville verticale. C'est-à-dire que ça t'oblige, ça t'invite, ça t'incite à chercher une position où tu vas légèrement avancer le bassin, légèrement reculer, comme si tu voulais t'asseoir sur un siège un peu haut. Tu vois, alors c'est très fin, faut te familiariser un peu avec le principe de rétroversion du bassin, d'accord? Comme quand tu t'assois, tu enroules le bas du corps, en fait, en quelque sorte. D'accord? Bon, en tout cas, tu es debout, les pieds légèrement écartés, et tu es debout, les genoux très très légèrement fléchis. Et l'idée, c'est d'abaisser le centre d'inertie, le centre de gravité du corps. D'accord? D'avoir des ancrages, d'être sur un sol dur, du carrelage, du parquet, du lino, de la moquette. D'accord? D'avoir une sorte d'effet de rebond. Okay? Si tu essaies de rebondir, si tu veux sauter et rebondir, tu vois, réception, extension, tu as besoin d'un sol dur, d'accord? Tu peux pas rebondir sur de la boue, sur de la vase ou sur du sable. Tu vois, ça rebondit pas. Tu as besoin d'un sol dur. Donc tu vas chercher déjà cet ancrage-là, tu vois, de placer ton corps vraiment sur du dur, que les jambes ne soient pas crispées, qu'elles ne soient pas contractées, qu'elle reste souple, mais quand même en tension, d'accord? Dynamique. Prêt à bondir, en fait, ok? T'es prête à envoyer. Le ventre, souple, très légèrement tonique, pas trop, tu vois, vraiment le minimum de rigidité musculaire que tu peux avoir au niveau des muscles abdominaux, mais vraiment le minimum. Alors, c'est très, très... c'est très, très fin, tu vois, déjà, et tu vas t'apercevoir que de relâcher les abdos, de relâcher les viscères, c'est pas si facile que ça, d'accord? Les bras le long du corps, et tu laisses tomber les bras, tu vois. Tu peux mettre un peu de suggestion, autosuggestion hypnotique, les bras lourds, tu vois, qui font comme si on te tirait un peu les épaules vers le bas, très doucement, d'accord? Et on va faire des respirations avec la bouche, uniquement avec la bouche, d'accord? Une bouche d'aération, ok? On ne dit pas une narine d'aération ou un nez d'aération, c'est une bouche d'aération. On a besoin de beaucoup d'air, donc on utilise la bouche, ok? Et ce qu'on va faire dans cette position, debout, les pieds légèrement écartés, les genoux très légèrement fléchis, le corps vertical, pas raide, mais droit, raisonnablement droit, et le regard devant, voilà, porté sur l'horizon pour placer la tête par rapport, voilà, par rapport au corps. D'accord? D'avoir la tête droite, raisonnablement droit, sans raideur, sans crispation, mais quand même bien droit. On va inspirer et souffler par la bouche, d'accord? Très très vite, en inspirant beaucoup d'air. D'accord? On va se suroxygéner, on va hyperventiler. Donc, je te propose de faire ça pendant 10 secondes, de faire une pause, ensuite 20 secondes, faire une pause, 30 secondes, faire une pause, pas plus dans un premier temps, parce que tu vas constater que ça donne le tournis quand on n'a pas l'habitude. Même quand on a l'habitude, le matin, on est un peu froid, donc ça fait tourner la tête, surtout en étant debout, il faudrait pas se casser la figure non plus. Après, on peut le faire assis, hein, ça marche aussi. Mais la position debout, te met dans une dynamique différente, tu vois. Je trouve. Tu testes, hein, et tu vois ce qui te correspond. Et donc, on va surventiler comme ça. Okay? Donc, ça donne à peu près ça. Repos. T'attends quelques secondes. Tête qui tourne. Les épaules vaguement douloureuses. La nuque, tu vois. Ça réveille les muscles, en fait. Ça fait un peu mal. Ça réveille. Ça fait prendre conscience des tensions. Je recommence et on va aller de plus en plus vite en prenant de plus en plus d'air et plus longtemps. D'accord? En fait, jusqu'à ce que tu sentes vraiment que tous tes muscles qui étaient un peu congestionnés, comme si tu avais envoyé l'air directement dans les muscles. D'accord? Comme si tu pouvais diriger l'air directement dans les parties du corps, ce qui n'existe pas en réalité, hein, bien sûr. Donc on y va et on monte en intensité, on monte en durée, on monte en force et on va mettre de la tension là-dedans. D'accord? Tu mets de la force, vraiment tu forces la respiration, tu produis un effort, une contraction musculaire, voilà, on est dans l'effort, d'accord? On est dans la force, dans la contraction. Je le fais pas trop longtemps parce que j'imagine que ça doit casser les oreilles, comme ça, dans le casque, si t'écoutes au casque. Et de faire ça, tu vas rapidement te retrouver essoufflé, un peu ralenti, un peu vaseux, un peu mou, tu vois. Je le refais encore une fois. Maintenant, on va le refaire plus lentement et avec des respirations complètes. Qu'est-ce que c'est qu'une respiration complète? Tu respires, tu inspires au maximum de tes possibilités jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus d'air qui rentre. Et quand tu es au max, tu forces pour dépasser le max. D'accord? C'est ça l'idée. On va y aller progressivement. Au début, tu vas être peut-être à la moitié, aux deux tiers, trois quarts. 4 quarts, 5 quarts, tu vois, pourquoi pas. Bon, l'idée, c'est pas de se faire mal, hein. Et Lucie nous avait expliqué, Lucie Chabot, dans le podcast sur la voix, de pas gonfler le ventre non plus en inspirant, parce que, tu vois, il faudrait pas compresser les viscères, provoquer une descente d'organes ou je sais pas quoi, d'accord? Donc, respiration thoracique, normale, pas d'histoire de respiration ventrale, on s'occupe pas de ça, d'accord? La respiration, si tu veux... On va éviter de la mettre trop en hauteur, d'accord? Pas trop haut, mais plutôt comme si ça se passait au niveau du plexus, c'est-à-dire le bas de la cage thoracique, d'accord? Sous le sternum. Comme si, à la limite, tu peux poser ta main sur le sternum pour constater comment ça bouge quand tu inspires et quand tu expires. Toujours par la bouche, toujours debout, toujours les pieds légèrement écartés, les genoux légèrement fléchis, le dos raisonnablement droit, les bras tombants. Et la tête droite, le regard porté droit devant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, expirer par la bouche, d'accord, pour prendre des grandes quantités d'air, mais on va faire ça très lentement, tout en souplesse, en étant dans l'idée de ne mettre aucune force dans les muscles qui sont liés à la respiration, c'est-à-dire dans tout le haut du corps, les épaules, particulièrement les épaules, la cage thoracique, le ventre. Les bras, les mains, tout ce qui peut être en tension quand on respire un peu fort, on le laisse au repos le plus possible. D'accord? On ne met pas de force. Et on va respirer comme ça, le plus lentement et le plus complètement possible. Pour donner une idée, c'est un peu comme ça. Alors, c'est des chiffres à la truelle, hein, mais quand on respire normalement au repos sans rien faire de particulier, on serait à peu près à un quart de notre volume respiratoire maximal. D'accord? C'est pas beaucoup, hein. Quand on soupire, on serait à un demi, la moitié, tu vois, la moitié du volume respiratoire. Quand on bâille, on serait vers les deux tiers, trois quarts, je crois. Et la respiration complète, bah vraiment, à part quand je sais pas, si tu fais de la corde à sauter et encore, parce que souvent c'est assez saccadé, on n'a pas beaucoup d'occasion de la pratiquer, en fait. Et vraiment, tu vas sentir qu'au niveau de la détente musculaire, ça fait toute la différence, et qu'au niveau de la résonance, de la puissance de ton corps, par la solidité des ancrages, d'accord, et par la souplesse du haut du corps, tu as une voix naturellement beaucoup plus puissante. Ça ne veut pas dire qu'on va parler plus fort. Ça veut dire que tu peux parler plus fort avec moins d'effort. Donc que tu peux parler doucement avec encore moins d'effort. Et ça, c'est cool. Parce que tu restes souple dans ce que tu dis, tranquille, avec un flux d'air comme ça. Je t'avais expliqué la corde à linge et les mots, les paroles, c'est les vêtements qui sont sur la corde à linge, et tu as toujours ce fil. Ça peut être comme les lignes d'une portée musicale, tu vois. T'as les lignes. Et puis tu as les notes, mais tu as toujours les lignes. Et l'air que tu envoies comme ça, c'est les lignes. Et ce que tu fais avec ta langue, avec ton palais, avec tes dents, avec tes lèvres, pour tes joues, pour moduler le son, ça produit les notes. Mais on a besoin de l'air, d'avoir beaucoup d'air pour envoyer l'air non pas fort, mais avec régularité. Et c'est ce qu'on va travailler là. D'accord? Donc inspiration lente, profonde, complète, ça demande un peu d'entraînement. Je le fais bruyamment pour te donner une idée. Jusqu'à ce que tu aies vidé complètement les poumons et tu les remplis à nouveau complètement. On y va doucement pour pouvoir sentir les tensions qui se relâchent au fur et à mesure que tu prends de l'oxygène. Et comme ça. Alors ça peut durer beaucoup plus longtemps, bien sûr, et tu vas t'apercevoir que de respirer très lentement et complètement comme ça par la bouche, Encore une fois. Bon, je le fais un peu vite fait. J'arrive à le faire beaucoup plus longtemps, en fait, quand je suis vraiment concentré et bien échauffé, d'accord? Et en fait, c'est assez surprenant de constater, ah ouais, mais je peux prendre tout ça comme air. C'est spectaculaire, en fait. Donc, une bonne habitude, en fait, c'est de régulièrement aérer ton discours en laissant la bouche ouverte pour reprendre de l'air. D'accord? Si tu es au milieu d'une phrase et que tu es essoufflé parce que tu es sur une suggestion, tu dis le truc, tu dis, j'ai plus d'air, tu commences un peu à perdre la voix, donc tu perds le train de la pensée, etc. Hop, tu t'arrêtes et si tu le fais avec le nez, bon, c'est pas génial, ça fait du bruit, t'as pas beaucoup d'air, quoi, tu vois. Tu ouvres légèrement la bouche et t'as une espèce de réflexe comme ça. Pratiquement immédiat ou en une fraction de seconde, tu te remplis d'air comme ça, t'as un espèce de truc qui se met en place. Donc c'est vraiment par la bouche que ça passe en fait, l'oxygénation. D'accord? Donc là, t'as mis de l'oxygène dans tes muscles, dans ton cerveau, t'as remarqué que ça pouvait tirer un peu quand tu hyperventiles. Au début, ça tire un peu, moi ça me tire les épaules, la nuque, c'est pas génial. Tandis que les respirations lentes, les respirations souples apportent énormément de détente, ça ralentit un peu, ça endort légèrement, tu vois, c'est cool, quoi. Okay? C'est aussi des choses qu'on peut proposer en séance pour faire de l'induction, de l'approfondissement ou ce genre de choses. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à travailler dans ton coin, tranquille, à ton rythme, à ta façon, pour trouver ton médian. D'accord? Entre l'hyperventilation rapide, intense, forcée, rigide, musculaire, tu vois, et la respiration lente qui est beaucoup plus passive, qui est beaucoup plus liée à la patience, à la régularité, tu vas trouver ta respiration d'entraînement un peu idéale sur le moment. Par exemple, je le fais comme ça un peu librement, toujours debout, toujours avec la bouche. Voilà, spontanément, ce matin, je vais sur un rythme un peu comme ça. Donc je peux continuer encore. Et je vais hyperventiler comme ça, au rythme qui me convient. Et ça va me permettre d'être beaucoup plus détendu et de chauffer aussi au niveau des muscles, en fait, au niveau de tout ce qui se passe. Je ne sais pas l'expliquer dans le détail au niveau anatomique. Mais vraiment, on s'échauffe, on se détend, on se libère un peu de soi-même, on s'allège de soi-même à travers ce genre de pratique, ce qui te permet d'aborder la séance avec un esprit apaisé, un esprit calme, réceptif, avec de la souplesse pour recevoir, recueillir les paroles de la personne, les accueillir, pouvoir les restituer et pouvoir garder une voix qui soit quelque chose sur laquelle la personne va pouvoir se reposer pour entrer en hypnose. Parce que quoi qu'il se passe, ta voix, elle reste égale, constante, régulière, stable, solide. Ça ne veut pas dire monocorde, d'accord? Mais il y a quelque chose qui donne un sentiment de sécurité, ce qui est une condition essentielle pour qu'une personne puisse entrer en hypnose. Si la personne a peur, si la personne est dans la confusion, si elle est saturée d'informations, si tu la laisses pas en placer une, comment tu veux faire de l'hypnose dans des conditions pareilles, quoi? Maintenant, nous allons faire du bruit. D'accord? Nous avons appris à respirer. Donc là, nous allons inspirer énormément d'air, énormément d'oxygène, et nous allons faire le om. Tu connais le om, comme ça. En fait, sur l'expiration, bouche fermée, on va produire un son. Un son un peu comme ça. Donc l'idée, c'est de trouver toujours ton médian, très important, ta note de base, sur l'instant. Tu t'es bien échauffé, tu t'es bien oxygéné, tu t'es bien ventilé, t'as assoupli ton corps, d'accord? t'as enlevé l'excédent de force, de contraction, t'as enlevé un peu de toi-même à l'intérieur de ton corps, donc c'est cool, tu vois. Tu vas pouvoir commencer à t'exprimer, à faire du bruit. Donc le hum, ça peut être une note aiguë, ça peut être une note basse, etc. Mais dans les deux cas, trop aigu ou trop grave, ça fatigue, d'accord ? Et l'idée, c'est d'aller sur la note où tu vas naturellement. Donc la note, elle peut changer, se faire, tu vois, au fur et à mesure de l'exercice. Aucune importance, d'accord ? Ce qui est visé dans cet exercice, c'est vraiment la constance et la régularité pour prendre conscience du flux d'air. D'accord ? C'est exactement comme l'exercice qui consiste à souffler comme à travers une paille ou avec une vraie paille, qui permet de t'habituer à ce que l'air ne vienne pas frapper les incisives. D'accord ? Un ton incisif, c'est quand l'air vraiment va taper comme ça sur les incisives, ce qui donne des effets sonores très intéressants, tu vois, comme ça. Mais au bout d'un moment, surtout dans le chant ou dans le rap ou des choses comme ça, où vraiment on va scander et marteler les consonnes pour donner le rythme, ça finit par faire mal en fait. Ça finit par faire mal aux dents de taper comme ça. Donc l'exercice de la paille te permet de te rééduquer, entre guillemets, pour avoir un ton, pour être moins incisif, pour placer le flux d'air plus entre les dents que vraiment sur le palais, quoi. Bon, après, il faudrait détailler. Mais l'idée, c'est toujours l'idée de la régularité des lignes de la portée, de la corde à linge, d'avoir quelque chose qui s'extrude, qui s'étend comme ça vers l'horizon à l'infini. Donc avec le « m », ça donnerait ça. Inspiration, expiration. Tu reprends de l'air, petite pause, et tu recommences. T'as entendu, c'est pas compliqué, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de constant et de régulier pour prendre conscience de l'air que tu contiens sur l'instant, en fait. Et c'est étonnant parce que ça peut durer très longtemps, enfin, assez longtemps. On peut se dire, ah, mais j'ai encore de l'air, j'en ai encore. Et tu vas remarquer, ou je te le fais remarquer, que cet exercice devient facile à partir du moment où tu es détendu. Et dès que tu commences à avoir des tensions, que ce soit dans les abdos, dans les pectoraux, dans les bras, dans les mains, dans les épaules ou autres, tout de suite, ça commence à forcer au niveau de la gorge, ça commence à devenir difficile. Donc c'est vraiment un exercice pour travailler la détente, d'accord ? Après, tu peux jouer avec le volume, essayer de le faire plus fort, moins fort, et tu vas remarquer que de faire plus fort, beaucoup plus fort, ne nécessite pas beaucoup plus d'oxygène, mais ça nécessite beaucoup plus de détente. D'accord ? Ça donnera à peu près ça. Là j'ai crispé au niveau du ventre et je me suis étouffé. C'est pas grave. On reprend de l'air et surtout l'idée c'est pas d'aller jusqu'à la suffocation non plus, d'accord ? Pas aller jusqu'à l'étouffement, mais vraiment de sentir à quel moment tu manques d'air et à quel moment t'as de la tension qui t'empêche de gérer le flux entrant, le flux sortant. Oh. La moto un peu, avec l'accélération sur la fin. Bon, tu vois l'idée? C'est ça. C'est de l'air, de l'air, de la détente. Un corps, de l'air, de la souplesse, de la mollesse dans les épaules. Et de la souplesse dans les guibolles, comme dit une chanson. Je sais plus laquelle. Merci de ton attention, travaille bien, à bientôt, bon week-end, joyeux printemps, etc. etc. Ciao.